Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale, hein? Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Ah. Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, c'est mon frère.
J'avais un ami qui avait un ami qui était bien avec la psychologue d'entreprise. Et donc il lui a dit que bon, j'étais un ami d'amis et j'avais l'air comme ça, pas du tout crédible, mais en fait j'étais quelqu'un de très bien. Donc, ça m'a permis de décrocher mon premier emploi, enfin dans une boîte de services en informatique. Effectivement, j'étais pas bien comme type, enfin comme employé, j'étais... Je lisais la nuit, j'arrivais en retard, je détournais les gens de leur travail, enfin j'étais pas bien du tout, mais bon, ce piston avec la psychologue m'a permis de trouver un premier emploi.
C'est un ton extrêmement caractéristique et qu'on retrouve dans ses œuvres très directement, sans doute. Enfin, oui, qui
passe.
Il a
la musique de son texte là quand il parle dans sa voix.
Oui. Je pense, et je pense que quand on le lit, on l'entend aussi. C'est vrai pour les romans, c'est sans doute encore plus vrai pour la poésie.
Alors je parle de Michel Houellebecq, nous parlons de Michel Houellebecq, mais peut-être si l'on suivait scrupuleusement l'état civil, faudrait-il parler de Michel Thomas, Agathe Novak-Lechevalier.
Oui, en effet, donc Michel Houellebecq est Michel Thomas, et il a choisi comme nom de plume Houellebecq, qui est le nom de jeune fille de sa grand-mère paternelle, qui l'a élevé, enfin qui est la seule à s'être vraiment occupée de lui. Enfin, il a d'abord vécu avec sa grand-mère maternelle en Algérie, et puis ensuite, il a été repris par son père, qui l'a confié à sa mère à lui, qui s'appelait Henriette Houellebecq de son nom de jeune fille, Henriette Thomas. Henriette Houellebecq de son nom de jeune fille.
Parce que c'est un enfant qui a été délaissé par ses parents.
Oui. Il a vécu une enfance assez terrible, extrêmement solitaire, extrêmement malheureuse. Et il a donc choisi ce nom de plume qui va rester pour rendre hommage à celle qui, justement, lui a donné de l'amour et qui s'est occupée de lui, enfant.
Il est né en 1956. Ou peut-être en 1958.
Alors on ne sait pas. Puisque sa mère a laissé entendre, enfin lui est persuadé en tout cas que sa mère a trafiqué son acte de naissance pour pouvoir le mettre à l'école plus tôt et éventuellement du coup se débarrasser de lui. Alors les versions diffèrent, soit pour donner l'impression qu'il était un génie, soit, dit-il, peut-être plus vraisemblablement pour se débarrasser de lui un peu plus vite et être un peu plus vite tranquille.
Playa Blanca, les hirondelles glissent dans l'air, température, fin de soirée, villégiature, séjour en couple, individuel. Girandole enroulée sur le palmier mort s'allume et la soirée décolle. Les Allemandes traversent le décor. Playa Blanca, comme une enclave au milieu du monde qui souffre, comme une enclave au bord du gouffre, comme un lieu d'amour sans entrave. De soirée, les estivantes prennent un deuxième apéritif, elles échangent des regards pensifs, remplis de douceur et d'attente. Casablanca le lendemain, quand les estivantes se dévoilent, seul au milieu des êtres humains, je marche vers le club de voile. Faire à partir de l'hôtel. Lufthansa. Retour au réel.
Le sens du combat de Michel Houellebecq. Avec Michel Houellebecq, chant et improvisation, Martine Viard et Jean-Jacques Birger.
Michel Houellebecq, un poète à la fin du XXe siècle. Un poète seul, avec la rumeur du monde, dans le no man's land des zones habitées, sans déserter pourtant. Première approche, des titres tracts qui sonnent comme autant de détournements provocateurs. Rester vivant, la poursuite du bonheur, extension du domaine de la lutte. Le sens du combat. À ne pas prendre à la légère ou avec un sourire entendu. Il n'y a pas là qu'ironie et dérision, mais stratégie. Stratégie implacablement menée, impeccablement scandée. Tous les poèmes de Houellebecq sont des poèmes de survie qui creusent au plus profond du noir. Leur pessimisme ouvre sur une féroce gaieté. Il y a bien lutte et combat pour tenir sans espoir face au malheur et au meurtre. La poésie de Houellebecq est faite d'amertume, de frustration, d'éclairs sauvages. C'est une défaite qui n'a pas dit son dernier mot.
Le jour monte et grandit, retombe sur la ville. Nous avons traversé la nuit sans délivrance. J'entends les autobus et leur humeur subtile des échanges sociaux. J'accède à la présence. Aujourd'hui aura lieu. La surface invisible, délimitant dans l'air nos êtres de souffrance, se forme et se durcit à une vitesse terrible. Le corps pourtant, est une appartenance. Nous avons traversé fatigues et désirs, sans retrouver le goût des rêves de l'enfance. Il n'y a plus grand-chose au fond de nos sourires. Nous sommes prisonniers de notre transparence. Au long de ces journées où le corps nous domine, où le monde est bien là, comme un bloc de ciment, ces journées sans plaisir, sans passion, sans tourment, dans l'inutilité pratiquement divine, au milieu des herbages et des forêts de hêtres, au milieu des immeubles et des publicités, nous vivons un moment d'absolue vérité. Oui, le monde est bien là, et tel qu'il paraît être. Les êtres humains sont faits de parties séparables. Leur corps coalescent n'est pas fait pour durer. Seuls, dans leurs alvéoles soigneusement murés, ils attendent l'envol, l'appel de l'impalpable. Le gardien vient toujours au cœur du crépuscule. Son regard est pensif, il a toutes les clés. Les cendres des captifs sont très vite envolées. Il faut quelques minutes pour laver la cellule.
Et en même temps, la poésie est chargée de dire l'illimité, et en même temps, le vers vient cadrer, en effet, cette illimité-là.
Un peu comme si on avait peur de soi-même, on se fixe des cadres pour précisément ne pas trop déborder, parce qu'on a peur de ce qu'on pourrait faire sans cadre.
Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que très clairement, et le titre de Rester vivant, méthode, le montre très bien, pour Michel Houellebecq, la poésie a toujours une relation directe avec la vie et la mort, et est une question de survie au bout du compte. C'est très net dans ses poèmes, qui traitent beaucoup de ces questions-là. C'est très net aussi dans tout ce que disent les gens qui l'ont connu justement à ses débuts, et qui ont tous été frappés de cette dimension vitale qu'avait l'écriture poétique pour Michel Houellebecq.
Vous employez un mot pour caractériser ses poèmes, mais peut-être aussi pour caractériser ses romans, et ce mot, c'est le lyrisme. Oui. Qu'est-ce qui est lyrique chez Michel Houellebecq ?
Ce qui est lyrique chez Houellebecq, c'est d'abord sans doute que la poésie, pour lui, est très directement une question de souffle. C'est très frappant dans le Cahier de Lerne, dans son entretien avec Sophie Nolot, qui a eu lieu justement sur France Culture, où il dit, à propos de Configuration du dernier rivage, son dernier recueil, que ses poèmes maintenant sont plus courts, parce que il n'a plus le souffle pour les poèmes plus longs, et notamment il n'a plus assez de souffle, dit-il, pour l'Alexandrin. Et il dit que le poème est pour lui extrêmement lié à une aptitude physique, à une forme d'énergie, et qui est l'énergie lyrique, fondamentalement. Il y a ça, et puis par ailleurs, je pense que sa poésie est lyrique en ce sens que elle est là pour exprimer fondamentalement une intériorité. Peu importe les questions techniques, peu importe la virtuosité du poète. Ce qui compte, c'est véritablement la sincérité profonde de l'être qui s'exprime, à la fois dans la poésie et, enfin, il fait lui-même le parallèle avec la musique et avec les chanteurs de rock, Neil Young par exemple, qu'il admire énormément. Eh bien, c'est ça qui fait le grand artiste, c'est la capacité à s'exprimer sans frein, sans masque, à mettre son cœur à nu, pour emprunter une expression baudelairienne.
Les matins à Paris, les pics de pollution, et la guerre en Bosnie qui risque de reprendre. Mais tu trouves un taxi, c'est une satisfaction. Au milieu de la nuit, un souffle d'air plus tendre te conduit vers le jour. Le mois d'août se prolonge et tu diras bonjour dans ton bain à l'éponge. Tu as bien fait de prendre des vacances en septembre. Si je n'avais pas d'enfant, moi je ferais pareil. On a parfois autant de journées de soleil. Terminé. Il va falloir éliminer les lumières du bar tropical s'éteignent. On va fermer la salle. Bien fait de prendre tes vacances en septembre. Et tu croises dans la rue des touristes norvégiennes. Tu regardes le matin monter sur l'Ouvecienne. soir est terminé. Il va falloir éliminer. Le jour monte sur la résidence. Il est plus tard que tu ne penses. Déjeuneras seul d'un panini saumon dans la rue de Choiseul et tu trouveras ça bon.
Fin de soirée, la montée de l'écœurement est un phénomène inévitable. Il y a une espèce de planning de l'horreur. Enfin, je ne sais pas, je pense. L'expansion du vide intérieur, c'est cela. Un décollage de tout événement possible. Comme si vous étiez suspendu dans le vide, à équidistance de toute action réelle, par des forces magnétiques d'une puissance monstrueuse. Ainsi suspendu, dans l'incapacité de toute prise concrète sur le monde, la nuit pourra vous sembler longue. Elle le sera, en effet. Ce sera, pourtant, une nuit protégée. Mais vous n'apprécierez pas cette protection. Vous ne l'apprécierez que plus tard, une fois revenu dans la ville, une fois revenu dans le jour, une fois revenu dans le monde. Vers 9h, le monde aura déjà atteint son plein niveau d'activité. Il tournera souplement, avec un ronflement léger. Il vous faudra y prendre part, vous lancer, un peu comme on saute sur le marchepied d'un train qui s'ébranle pour quitter la gare. Vous n'y parviendrez pas. Une fois de plus, vous attendrez la nuit, qui pourtant, une fois de plus, vous apportera l'épuisement, l'incertitude et l'horreur. Et cela recommencera ainsi, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le lobe de mon oreille droite est gonflé de pus et de sang. Assis devant un écureuil en plastique rouge symbolisant l'action humanitaire en faveur des aveugles, je pense au pourrissement prochain de mon corps. Encore une souffrance que je connais mal et qui me reste à découvrir, pratiquement dans son intégralité. Je pense également et symétriquement, quoique de manière plus imprécise, au pourrissement et au déclin de l'Europe. Attaqué par la maladie, le corps ne croit plus à aucune possibilité d'apaisement. Main féminine, devenue inutile. Toujours désiré, cependant. Bouche entrouverte, comme des carpes, nous laissons échapper des renvois de mort. Pour dissimuler l'odeur de mort qui sort de nos gueules, qui sort invinciblement de nos gueules, nous émettons des paroles. Les pierres calcaires qui composent nos maisons sont des animaux morts, des animaux écartelés, dépecés, desséchés, des coquillages éviscérés, des coquillages écrasés, triturés, malaxés par la violence interne de la terre, par la terrifiante chaleur des entrailles de la terre, des animaux conglomérés et morts.
Pour commenter cela, il me semble qu'on peut avoir une entrée du côté de la psychologie, et notamment ses relations avec sa mère et quelque chose de très psychologique, mais d'autre part, la religion. C'est un thème dont on n'a pas encore parlé et qui me semble tout à fait central, pas seulement avec Soumission, parce que ça traverse toute l'œuvre de Houellebecq.
On a dit religieux. Que la Vierge Marie était très présente.
Oui, j'ai cité la Vierge Marie, mais pas que. Il ne cesse de répéter qu'une société ne peut vivre sans religion. Si vous voulez, je repars de l'appréciation que je faisais tout à l'heure, de dire qu'il était inclassable politiquement parce qu'il n'est ni à gauche ni à droite. Et c'est pour ça qu'il dérange tellement. Alors, on l'a vite catégorisé dans la droite réactionnaire. Il y a des raisons pour ça. Mais en réalité, on pourrait aussi bien le mettre à l'extrême gauche, puisque son hostilité au libéralisme le conduit à s'intéresser beaucoup au socialisme.
En tout cas, il n'est pas au centre, ça c'est sûr.
Non, il est certainement... Ah non, il est aux extrêmes, on est toujours aux extrêmes.
À peu près dans les formes. Je suis toujours couché au niveau du dallage. Il faudrait que je meure ou que j'aille à la plage. Il est déjà 7 heures. Probablement, ils dorment. Je sais qu'ils seront là, si je sors de l'hôtel. Je sais qu'ils me verront, et qu'ils auront des shorts. J'ai un schéma du cœur, près de l'artère aorte. Le sang fait demi-tour. La journée sera belle. Nul bruit à l'horizon, nul cri dans les nuages. La journée s'organise en groupe d'habitude. Et certains retraités ramasse des coquillages. Tout respire le plat, le blanc, la finitude. Un Algérien balaie le plancher du Dallas, ouvre les baies vitrées. Son regard est pensif. Sur la plage, on retrouve quelques préservatifs. Une nouvelle journée monte sur Palavas. Tout a lieu, tout est là, tout est phénomène. Aucun événement ne semble justifié. Il faudrait parvenir à un cœur clarifié. Un rideau blanc retombe et recouvre la scène. Sans notion, au milieu des immeubles, je vois se profiler de futurs sacrifices. J'aimerais adhérer à quelques artifices, retrouver l'espérance en achetant des meubles. Quelqu'un a dessiné le tissu des rideaux et quelqu'un a pensé la couverture grise dans les plis de laquelle mon corps s'immobilise. Je ne connaîtrai pas la douceur du tombeau. Tout a lieu, tout est là, et tout est phénomène. Aucun événement ne semble justifié. Il faudrait parvenir à un cœur clarifié. Un rideau blanc retombe et recouvre la scène.
D'abord, Michel Houellebecq, est-ce que vous l'avez suivi, cette campagne électorale ?
Oui.
Beaucoup de près ?
Oui. Oui, oui, avec un sentiment de malaise, en fait, hein, croissant.
Pourquoi ?
Qui s'est peu à peu transformé en honte, en fait.
En honte, oui.
Mais malaise, parce que la deuxième France, là, dont vous parlez, c'est-à-dire la France qui est périphérique, qui hésite entre Marine Le Pen et rien. Je me suis rendu compte que je la comprenais pas, que je la voyais pas, que j'avais perdu le contact. Et ça, quand on veut écrire des romans, je trouve que c'est une faute professionnelle assez lourde.
Et pourquoi vous avez perdu le contact avec cette France-là ?
Parce que je la vois plus, je fais partie de l'élite mondialisée maintenant, typiquement. Bah oui. J'exporte même en Allemagne, enfin, c'est dingue, quoi.
Et pardon, Michel Houellebecq.
Et pourtant, je viens de cette France.
Vous faites vos courses ? Vous êtes...
Non, mais elle habite pas dans le même quartier que moi. Elle habite pas à Paris, déjà. À Paris, Le Pen n'existe pas. Elle habite dans des zones périphériques, décrites par Christophe Billy, des zones mal connues. Alors, tantôt, on a un aperçu vague. C'est un documentaire, quelques mois, que j'avais vu sur les artisans et petits patrons qui se suicident, de leur démêler avec le RSI. C'est une violence terrifiante, politiquement. Mais le fait est que j'ai perdu le contact.
Et est-ce que vous comprenez ce malaise dont on a parlé pendant 2 heures dans cette émission, ce malaise de cette France périphérique-là, cette violence, cette colère ?
Non, je la comprends pas suffisamment. Je veux dire, je pourrais pas écrire un livre là-dessus, quoi. Et c'est ça qui me gêne. C'est pour ça que je suis mal à l'aise.
Des phénomènes, aucun événement ne semble justifié. Il faudrait parvenir à un cœur clarifié. Un rideau blanc retombe et recouvre la scène.